Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au podcast de Game Info. Cette semaine, je serai en compagnie d'ATH.
Salut l'équipe, salut les auditeurs.
Et de celui qui nous a trahis, nous autres PCistes, c'est Mordren. Alors comme ça, monsieur Mordren, hein, on a craqué durant le Black Friday pour une PS4.
Oui, absolument. Et j'assume totalement. Il y a des jeux exclusifs à cette console et je ne pouvais pas juste les laisser passer comme ça. Je suis désolé. Voilà. Et puis j'en profite aussi du coup pour commencer à jouer à un jeu qui est exclusivement console pour l'instant, c'est Red Dead.
Enfin, pour le moment, tu joues surtout à Spider-Man, je te ferai remarquer.
Mais j'ai ma roadmap.
C'est bien tirant de critiquer, mais t'as joué à quoi sur Red Dead Redemption 2?
Non, mais tout de suite, là, on met les sujets qui fâchent, comme ça.
Mauvaise foi, man.
Oui, non, mais en vrai, j'en ai rien à foutre, hein. Ça fait des mois que j'ai une PS4. Et puis surtout, Mordren, c'est pas comme si t'étais, on sait bien que t'es polygame, hein, de toute façon. Oui. Monsieur a déjà une Switch, donc bon, c'est pas comme si la fidélité, hein, c'était quelque chose, qui te préoccupait beaucoup.
Hein, disons que je suis plutôt fidèle, mais bon, quand il se passe des choses intéressantes de l'autre côté de la barrière, bon, bah, je traverse, quoi.
Faudra que tu me penses que je rappelle ça à ta copine. Ok. Ça pourrait être très mal interprété sorti de son contexte. Au sommet de l'actualité, cette semaine, on vous parlera d'un petit FPS indépendant. On enchaînera ensuite sur la grosse blague du PlayStation Classic. Nous évoquerons également Nintendo. Et si on arrêtait d'être con, c'était le sujet de cette semaine chez la firme japonaise. Nous parlerons ensuite du suicide de Bethesda. Et enfin, on terminera avec les lootbox, parce qu'il y en a marre qu'on se fout de notre gueule. Vous allez voir, il paraît qu'ils font des lootbox, mais c'est pour notre bien, en fait.
Ça n'avait rien que
c'est
à la
phrase du comme idée. Sans oublier notre jeu du moment, alors je précise, ce n'est pas vraiment une critique du jeu parce que c'est un jeu que tout le monde connaît et de toute façon, il y a plein de personnes avant nous qui ont fait des critiques bien meilleures que tout ce qu'on pourrait faire sur le sujet, c'est Magic the Gathering. On va surtout vous parler du modèle économique parce que c'est un modèle économique qui, ma foi, Mordren, à une heure où un certain artefact se fait déchirer sur Steam. C'est intéressant de voir ce que fait un escroc notoire comme Wizard of the Coast, qui, pour le coup, nous a étonnés.
C'est clair.
Allez, c'est parti. On va commencer avec ma recommandation de la semaine, c'est un petit shooter indépendant. Si vous aimez les FPS rétro, un conseil, allez regarder cette petite vidéo que je vous mettrai dans les commentaires de l'émission d'un certain Prodeus. Prodeus, c'est quoi? C'est un FPS rétro, c'est un fast FPS. Vous savez, c'est jeu qu'on ne fait plus aujourd'hui à part le Doom de Bethesda. C'est un FPS rétro, mais avec un rendu moderne, et ma foi, ça change de tout CPS avec des pixels dégueulasses. Alors je précise, il y a du pixel, mais je trouve le rendu assez classe au final, et ma foi, ça donne envie. ATH ?
Ouais, ça fait plaisir de revoir des fast FPS qui reviennent sur le devant de la scène. Comme tu l'as très bien dit, il y a le Doom de 2016 qui est revenu un petit peu pour montrer ce que c'était que le FPS un peu con. Un peu con, c'est sans être méchant, mais c'est vraiment tu prends le jeu et vraiment tu passes un bon moment sans te prendre la tête. Il n'y a pas une histoire développée, tu affrontes des ennemis, tu tires dans le tas. Et ça fait du bien aussi d'avoir des jeux un peu comme ça qui se prennent pas vraiment au sérieux. Le jeu, il a beau être fait par des indépendants, il y a quand même cette petite patte qui te dit que voilà, il y a un travail qui est fait derrière, ça a l'air prometteur, quoi.
Et puis surtout, au-delà du côté pas prise de tête, parce que à la limite on pourrait dire, ouais, bah le solo de Call of Duty, ah oui, excusez-moi, c'est vrai qu'il n'y en a plus. Mais le solo de Call of Duty, à la limite, tu te prends pas la tête aussi, mais surtout, c'est le FPS à gameplay. C'est-à-dire que effectivement, on se prend pas la tête, mais quand même, on a un gameplay qui déchire, tu vois, avec un level design un peu labyrinthique où tu vas te perdre dans les décors, etc. Et surtout, ben, pour une fois qu'on a un FPS de ce genre-là qui fait du pixel, mais pas trop, vous verrez, franchement, le rendu, je le trouve assez classe. Ben, ça fait plaisir. Ensuite, on va enchaîner avec. Non, mais sérieusement, Marwan. On vous a parlé il y a quelque temps du PlayStation Classic. On n'était déjà pas très emballés à la base, mais alors il y en a qui vont pas du tout emballés. C'est les Américains qui vont découvrir les joies du PAL 50Hz.
Oui, alors on se rappelle évidemment que à l'époque il y avait donc deux grands système d'affichage sur les écrans de télé. Donc ça a disparu depuis, mais en Europe, il y avait le système PAL, qui était donc afficher les jeux en 60 Hz, me semble-t-il.
Non, 50 Hz.
En 50 Hz, pardon. Et le NTSC, du coup, qui était plutôt côté États-Unis, qui affichait les jeux en 60 Hz.
Oui, alors, juste une précision, parce que nous, tu sais, dès qu'on dit PAL 50 Hz, on a vécu ces choses-là, tu vois. Est-ce que vous pourriez décrire à nos auditeurs, parce qu'il y en a peut-être qui ne savent pas ce que c'est, le PAL 50 Hz, les joies de cette monstruosité?
Alors, le PAL 50 Hz, ça ralentissait déjà les jeux de base. Et en plus de ça, on avait une image qui était un peu écrasée par rapport à l'image naturelle qui était pensée pour le jeu. Et du coup, on avait ces fameuses petites bandes noires qui apparaissaient en haut et en bas de l'écran.
Ça, plus le fait que ça détruisait les musiques de certains jeux.
Ah oui.
Par exemple, les Sonic, moi je me rappelle, mais ça m'a traumatisé. Enfin, ça a gâché certains morceaux de Sonic, c'était absolument dégueulasse. Et donc du coup, on aurait pu se dire effectivement, mon cher Morgan, que, y compris pour l'Europe, il se serait dit, bon, on va faire un petit effort, on va prendre des ROM américaines, on va mettre les traductions dedans, etc. Mais non, en fait.
Eh bien non, puisque il y a un certain nombre de jeux. Alors on rappelle quand même que dans la PlayStation Classic, il y a 20 jeux embarqués et il y a un certain nombre de jeux, en tout cas sur la PlayStation Classic américaine, qui sont en PAL. Du coup, qui a priori vont souffrir de tous les problèmes qu'on vient de citer, mais aux États-Unis. La liste, c'est quand même donc Battle Arena Tenshinden, Cool Borders 2, Grand Theft Auto, Jumping Flash, Tekken 3. Et Tom Clancy's Rainbow Six. Je pense que les Américains vont apprécier.
ATH.
Heureusement déjà que dans la liste, il n'y a pas Final Fantasy VII. Parce que nous, on l'a connu en Europe en 50 Hz. Et c'était pas joyeux. D'ailleurs, sur Final Fantasy IX, la version 50 Hz empêchait de finir le jeu en moins de 9 heures pour débloquer une quête, on va dire, ultime. Du coup, pour les Européens, tellement les dialogues étaient lents, c'était quasiment impossible à faire. Mais en plus de ça, les mecs, ils ont connu ces jeux aux États-Unis et on leur sort plus tard, mais dans une version moins bien.
En version dégueulasse.
C'est ça. Alors que encore les Européens, avant on était un peu la cinquième roue du carrosse, on a connu ces jeux dans ces versions-là. Moi, par exemple, à l'époque, je connaissais pas du tout la différence entre 50 Hz et 60 Hz. Donc du coup, j'étais pas trop gêné par rapport à ça.
Alors moi, si tu veux, je la connaissais parce que je n'habitais pas en France. Et que du coup, j'avais le comparatif.
Ah oui, non, mais ça a dû être violent quand même.
À noter également que à l'intérieur de la console, en fait, c'est l'émulateur PCSX.
Oui, parce que bon, évidemment, chez Sony, comment on n'a pas envie de se faire chier. Parce que moi, je suis désolé, s'ils étaient un peu intelligents, il se trouve que la Vita émule la PSP qui fait tourner parfaitement les jeux PSX. Ils auraient pu, par exemple, reprendre le hardware Vita et faire un truc un peu custom, tu vois. Mais non, là, ils ont même pas envie de se faire chier, en fait. C'est limite si on nous a pas filé une Raspberry Pi avec un PCX6 dessus, quoi, tu vois.
Mais c'est exactement ça. Moi, je me rappelle, on avait beaucoup parlé Raspberry Pi au moment, justement, où il y avait la NES Classic et la SNES Classic qui sont sorties. Parce que, effectivement, ça fait beaucoup penser à ça. Mais là, en l'occurrence, on est parfaitement là-dedans. Puisque, en plus de nous donner un émulateur dans une jolie boîte, certes, ils nous donnent même pas les ROM qui sont corrects, donc ils font même pas le travail jusqu'au bout, quoi. On rappelle quand même que la PlayStation Classic, donc, est, à date de sortie du podcast, elle sera sortie en France, elle vaut quand même 100 euros.
C'est sympa.
Mais d'ailleurs, c'est marrant parce que Sony, au tout début des années 2000, il faisait la chasse aux personnes qui créaient justement les émulateurs. Et aujourd'hui, 18 ans plus tard, ils reprennent leur travail, sans les remercier ni rien déjà. Et en plus de ça, les mecs, ils ont quand même tenté de les foutre en justice. Je sais pas où est-ce qu'on peut aller dans la fiche de puterie, mais là, c'est quand même une belle preuve, quoi.
Voilà, bon, on va pas s'acharner sur le cadavre, hein, messieurs. On l'a déjà dit, cette console n'a aucun intérêt. Déjà, à la base, tu veux, tout ce qui est les histoires de manettes, etc., le fait qu'il n'y ait pas de joystick, bon, ça nous hypait pas du tout. D'une manière générale, vous le savez, on donne pas forcément dans le rétro maladif, ici. Alors, si en plus, c'est des trucs dégueulasses comme ça...
En tout cas, je pense que si on a inclus cette news dans le conducteur du podcast, c'est surtout que si jamais vous considériez l'idée d'offrir ça à quelqu'un ou de vous offrir ça à vous-même, pensez quand même qu'il y a ces problématiques-là sur cette console.
Chez moi, ça s'appelle un cadeau empoisonné.
Voilà,
ça,
donc,
mais...
très honnêtement, c'est tellement plus simple de créer une Raspberry Pi avec un émulateur qui tourne, avec des ROM qui tournent correctement, offrez plutôt ça, quoi. Moi, j'ai fait ça il y a 2 ans à mon frère, il était super content. Mais tu vois, c'est hyper facile et ça coûte moins cher en plus.
Bah, surtout que tu peux trouver des coques, tu sais.
C'est ça. Il y a des coques custom qui sont superbes. Enfin, donc, franchement, pensez plutôt à ça, quoi. Et en plus, vous aurez le plaisir de faire quelque chose de vos mains.
Et en plus de ça, le petit bonus, c'est que, bah, si c'est toi qui custom la Raspberry Pi, tu choisis les jeux que tu veux mettre. Donc, si la personne avait aimé, je sais pas, moi, par exemple, J-Poly sur PlayStation, bah hop, tu lui prends un petit ROM de J-Poly version US, c'est comme ça qui tourne en 60 Hz, et puis tu le mets là-dedans, et du coup tu personnalises les cadeaux, et ça fait plaisir.
Tout simplement. Allez, on va maintenant parler de Nintendo. Nintendo qui se dit, bon, les mecs, on a un petit problème. Je comprends pas pourquoi, hein, sur YouTube, les gens ils font pas des vidéos sur nos jeux, c'est bizarre quand même. Hein. Y a quand même quelque chose d'étrange, je comprends pas. Et là, il y a Gérard qui a dit, mais les mecs, j'ai compris, attendez.
Gérard Takashi, bien sûr.
Voilà, c'est ça.
Takashi, Dieu là.
J'ai compris, et si on arrêtait d'être cons en fait? Ça fait quelques années qu'on a mis notre taxe sur toutes les vidéos YouTube, parce que je vous rappelle que Nintendo, c'est un peu des nazis sur YouTube, c'est-à-dire qu'en gros, si t'es pas avec eux, t'es contre eux, et du coup, ils te prennent tous tes revenus sur toutes les vidéos, hein, parce qu'ils sont sympas. Le droit, tu sais, à la citation, etc., ils en ont rien à péter. Hein. Il y a 10 secondes de contenu Nintendo, pff, ils flaguent la vidéo, ils prennent le pognon, merci, au revoir. Et ils se sont dit que finalement, peut-être que c'était pas une bonne stratégie, qu'il fallait arrêter ça. C'est pas beau, messieurs? Hein, vous, est-ce que c'est pas génial, Mordrin? Vas-y. Dis-nous ce que tu en penses, toi, le vidéaste amateur, du réveil de Nintendo.
Bah, c'est pas trop tôt, putain. En fait, c'est super marrant parce que c'est au moment où ils commencent à avoir de nouveau du succès qu'ils se disent, bah, on va peut-être se rouvrir. Parce que je sais pas si vous vous rappelez, mais cette période problématique, justement, avec les contenus Nintendo, c'est arrivé au moment de la Wii U, quasiment. Après, faut pas se leurrer, je pense que leur taxe, là, sur les contenus Nintendo sur YouTube, ça devait leur apporter peanuts. Et ils ont dû s'en rendre compte, tu vois. À quoi bon brider les créateurs si c'est pour nous rapporter, je sais pas combien, mais ça doit être très peu à l'échelle de Nintendo. Autant les débrider et leur permettre de nous faire de la pub gratos, parce que, évidemment, c'est ce que c'est. Alors, bien sûr, il y a tout un tas de règles qui sont plus ou moins évasives, qui permettent quand même à Nintendo de se retourner contre le créateur si jamais ils font quelque chose de peu honorable. Mais en l'état actuel des choses, n'importe qui peut streamer du contenu Nintendo depuis sa console sur Twitch, peut balancer des vidéos sur YouTube. Je pense que ça va aider pas mal de créateurs. Après, on va pas se mentir, ceux qui voulaient vraiment balancer du contenu Nintendo, il le faisait. Il n'y a jamais eu de « on s'arrête de traiter des jeux Nintendo parce qu'il y a ce machin-là ».
Alors, on s'arrête peut-être pas, mais sûrement beaucoup moins de contenu que ce qu'ils auraient pu avoir s'ils n'avaient pas été totalement débiles sur le sujet, quoi.
Ah oui, c'est clair. Après, il y a juste un truc, moi, qui m'a frappé, c'est le côté « tu n'as pas le droit de balancer du contenu Nintendo sur YouTube, notamment ». Si tu ne transformes pas, entre guillemets, l'expérience. C'est-à-dire que si tu n'ajoutes pas ta voix sur ce contenu-là, c'est-à-dire que si tu fais pas une vidéo, un travail d'animation sur ces trucs-là, pour eux, c'est pas suffisant pour s'affranchir de la règle.
Si c'est que ça comme contrainte, voilà. Ça va pas être difficile.
Parce qu'il y a quand même un certain nombre de gens sur YouTube, ou même sur Internet en général, qui font des solus de jeux Nintendo. Notamment, il y en a beaucoup, évidemment, sur Zelda, Mario, etc., où il n'y a pas de voix sur ces trucs-là. Et il n'y a pas de montage non plus. Et alors, est-ce que, du coup, ça rentre dans cette zone grise qui est mise en place par Nintendo? C'est possible.
Ouais, ben, ça sera assez facile à corriger, hein. Je pense, aujourd'hui, il n'y a rien de plus facile que d'enregistrer sa voix, et clairement. On ne demande pas non plus de faire des montages de ouf, tu vois.
Ouais, c'est sûr.
Voilà, c'est ATH.
Bah, je voudrais d'abord saluer Nintendo qui rentre enfin dans le 21e siècle. Ça fait plaisir.
Bienvenue chez nous.
C'est ça. Mais en plus de ça, ce qui était complètement illogique avec la politique de Nintendo, c'était que les gens qui donnaient du contenu, justement, bah, c'était entre guillemets de la publicité qui était gratuite. Mmh. Et j'ai jamais compris pourquoi Nintendo, en fait, demandait aux gens de ne pas streamer leur jeu, de pas montrer du contenu de leur jeu.
Non, mais cherche pas, c'est des japonais, hein. J'explique ça que par ça, en fait, parce que, bizarrement, c'est le genre de réaction que j'ai vu que chez des boîtes japonaises, quoi. C'est-à-dire que, par exemple, je sais pas si vous vous rappelez, Datlus avec Persona 5, c'était, mais le même délire, quoi. Ils sont complètement déconnectés du monde réel, quoi.
C'est ça. Enfin, mais c'est Atlus, c'était, assez chiant parce qu'à chaque fois que tu lançais Persona 5, il te mettait un petit bandeau qui apparaissait en haut à gauche de l'écran. Ah, le contenu a été bloqué. Alors moi, du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé dans les paramètres de la console et j'ai enlevé cette petite notification qui a passé à chaque fois parce que dès qu'il y avait une cinématique ou quelque chose, bah, c'était pour empêcher, on va dire, les occidentaux de spoiler.
Espèce de sale gaijin, va. Tu spoiles notre jeu? Putain.
Alors que, voilà. Pour des gens qui veulent faire une critique d'un jeu Nintendo, donner leurs avis, ou même faire juste de l'entertainment, moi, je trouvais ça toujours un petit peu dommage. Surtout que Nintendo, c'est une société qui parle à un très large public, qui va du plus jeune à la personne âgée. Et, c'était un petit peu dommage qu'une grande boîte comme ça dans le jeu vidéo, tu vois, parce que Atlus, en comparaison avec Nintendo, c'est, il y a un monde d'écart. Oui. Parce qu'il faut quand même se rappeler que tu utilisais une musique d'un jeu NES, par exemple, du premier Mario ou du premier Zelda, sur une de tes vidéos qui parlait de jeux vidéo ou même d'autre chose, bah, Nintendo te strikait la vidéo. Et ça, du coup, ça freinait pas mal de gens. Surtout que Nintendo, c'est quand même des licences cultes, avec des musiques cultes, des sons qui sont propres à Nintendo qui sont cultes. Et je pense que rien que pour faire des mèmes sur Internet ou des choses comme ça, laisser la créativité aux vidéastes de s'exprimer, bah voilà, Nintendo c'est quelque chose qui parle à tout le monde, comme j'ai dit, donc c'était un petit peu dommage qu'ils étaient toujours derrière les gens en disant non, non, ça c'est à nous, ça c'est à nous. Donc voilà, je trouve ça cool qu'enfin, aujourd'hui, ils laissent les gens s'exprimer, quoi.
Cela dit, je trouve très cocasse qu'on arrive à une période où Nintendo commence à s'ouvrir, alors que de l'autre côté, sur YouTube, ça commence à être super chaud en matière de droits d'auteur. Je vous renvoie à la vidéo que le joueur du grenier notamment a fait récemment, vous savez, sur l'article 13 de la directive européenne sur le droit d'auteur. Vous allez voir, c'est chaud patate, hein. Il a eu plein de vidéos démonétisées, le joueur du grenier, par exemple.
Et je me demande si c'est pas en réaction aussi à ça. Il y a un certain nombre de créateurs qui sont extrêmement flippés sur ces choses-là maintenant, du fait que avec l'article 13, potentiellement l'intégralité de ton catalogue, en fait, peut être démonétisée, voire tout simplement stoppée à la publication en préemption, si tu veux. Et le fait qu'il y ait un grand acteur du divertissement qui dise « c'est ok, on va scanner quand même vos machins et on se réserve le droit s'il y a du contenu qui est jugé illicite ou qui viole des lois en place, on se réserve le droit de l'enlever, cette vidéo. » Mais si tout le reste se conforme à nos réglementations, c'est ok, allez-y. Ça, c'est un geste qui est hyper important. Alors, vous allez me dire, tout le monde le faisait à l'époque dans le jeu vidéo. Oui, mais on est quand même dans une période où ça va devenir excessivement compliqué de produire du contenu, où c'est effectivement très important d'avoir ce genre de geste fort. Après, s'il y a que ce geste-là de la part de Nintendo esselé qui est fait, ça va pas spécialement aider le joueur du grenier, puisqu'il fait des vidéos qui sont extrêmement montées, avec beaucoup de références, avec beaucoup d'extraits, machin,
bah,
et notamment...
Le problème après du joueur du grenier, c'est qu'il utilise beaucoup de contenu d'industrie, qu'on va sans taper la naphtaline, quoi. C'est-à-dire qu'ils n'acceptent pas qu'on utilise leur contenu, notamment le cinéma, tu vois. Enfin, qu'il y a beaucoup de mal avec l'idée qu'on utilise des musiques de certains films, etc.
C'est ça. Le problème, en fait, c'est que le droit à la citation, il n'y a pas véritablement de jurisprudence qui dit que sur la vidéo, c'est ok.
Ouais.
Mais du coup, effectivement, lui, il est toujours en galère parce que sur 25 minutes de vidéo, il peut y avoir 3 secondes qui appartient à Warner, comme il peut y avoir 3 secondes qui appartient à Atlus, comme il peut y avoir 3 secondes qui appartient à je sais pas qui, tu vois. Et forcément, tu tends le bâton pour te faire battre sur ces questions-là. Bon, donc au final, ça, c'est une réglementation qui va beaucoup plaire aux let's players, aux streamers. Ça va être pratique pour les gens qui ne traitent que d'un seul jeu et qui vont faire uniquement du montage d'images de ce jeu-là. En revanche, si tu veux apporter un peu plus de peps à ton montage en ajoutant des contenus qui sont, du coup, tiers, qui ne t'appartiennent pas et qui n'appartiennent pas à Nintendo, et bah là, tu te mets quand même dans cette situation de « bah je suis potentiellement, en fait, démonétisé parce que il y a Jean-Michel Connard qui a une seconde dans ma vidéo, et ben il va prendre l'intégralité de la monétisation. » Donc ça, évidemment, ça ne solutionne pas du tout le problème. Toujours est-il que Nintendo avance dans la bonne direction. J'ai quand même noté un truc qui va peut-être un peu déplaire aux gens qui se rémunèrent avec les placements de produits, avec de la publicité à l'intérieur de leurs vidéos. Nintendo cite précisément dans sa nouvelle réglementation que si tu monétises ta vidéo avec du contenu Nintendo, la seule monétisation qui est possible sur ce contenu-là, c'est la publicité de la plateforme dans laquelle tu la publies. Donc ça va être la publicité en pré-roll de ta vidéo YouTube ou pendant ton stream, mais ça ne peut pas être du placement de produit ou de la sponsorisation de ta vidéo. Et ça, ça peut être très important aussi pour un certain nombre de vidéastes qui clairement sont dans le top tiers, qui sont avec des, en ménage avec certaines plateformes, etc., pour justement permettre plus d'argent de rentrer dans les caisses. Ça, ça va pas être possible sur les jeux Nintendo avec cette nouvelle réglementation. Donc attention aussi.
Alors très égoïstement, moi je vous le dis, ça me paraît bien. Vous savez à quel point j'apprécie la publicité. Bref, on va passer à la suite et on va enchaîner sur un suicide. Je crois que ça me paraît bien. Ouais, après Blizzard de Bethesda, quoi. C'est-à-dire que ça ne vous a pas échappé ces derniers temps, Mordren. Bethesda, ils font un peu n'importe quoi, non, avec Fallout 76.
Ouais, en fait, clairement, on va pas vous refaire le pitch, c'est clairement pas un jeu qu'on va tester prochainement dans le podcast. Enfin,
disons que Fallout 76, c'est un peu un jeu de survie en accès anticipé, c'est sauf ça. Que Bethesda a oublié le totem d'immunité dans la forêt, quoi.
Oui.
C'est-à-dire que pourquoi les jeux en accès anticipé, y compris des jeux aussi dégueulasses que Ark, arrivent à s'en sortir malgré le fait que ils sont buggés jusqu'à l'os, parce que ils ont le totem d'immunité accès anticipé, tu vois, ils disent, ah, mais attendez, non, on est en accès anticipé. Si notre jeu, il est à chier, c'est parce qu'on est en accès anticipé. Laissez-nous le temps de le finir. Vous verrez, ce sera génial. Bon. Il se trouve que dans le cas de Ark, le jeu qui est sorti est totalement dégueulasse. Mais peu importe, hein, voilà. Mais en tout cas, Bethesda a sorti un Fallout 76 qui clairement est dégueulasse. Au prix, premium, on va dire, hein, n'est-ce pas? Et qui en plus n'a pas sorti le totem d'immunité, donc forcément ils se sont fait un peu déchirer de partout, quoi. Mais en plus ils se sont dit c'était pas suffisant, tu vois, Marvin, il fallait en rajouter une bonne couche.
C'est ça, parce que effectivement le produit qui est sorti, il répond pas aux attentes et aux promesses. Mais en plus de ça, il y a eu aussi une espèce de phénomène qu'on pourrait appeler de la publicité mensongère, puisque il a été vendu une édition collector à $200 quand même, dans laquelle on te montre d'ailleurs une photo de tout ce qu'il y a dans cette édition collector, notamment un sac. Alors vous allez me dire, ouais, mais un sac, on s'en fout, enfin voilà. Les gens qui ont acheté une édition collector à 200€, ils se disent, je veux l'intégralité du contenu qu'on m'a promis dans l'édition collector, parce que c'est quand même 200 boules, les gars. Et ce sac, il était censé être plutôt joli, en toile, voilà, plutôt sympa. Ce qui est arrivé dans la boîte aux lettres des gens qui ont acheté leur édition collector à $200, est un sac en nylon, tout froissé, et pas beau du tout.
Tu peux nous rappeler le prix de cette édition collector ou pas?
$200, ça doit faire 5 fois que je la répète, mais c'est hyper important, $200.
Oui, c'est pour ça que je demande de bien.
Non, mais parce que tu sais, on a du mal à réaliser, en fait, hein. Il faut que ça percute dans le cerveau, tu vois, parce que...
Évidemment, il n'y avait pas que ça, hein, dans cette édition, mais ça cristallise vraiment le côté, on s'en bat les couilles de vous, en fait. On ne vous prévient même pas que finalement il y a eu un changement de projet. Parce que bon, je sais pas si sur les visuels d'annonce de ce machin-là, il y avait écrit visuel non contractuel, mais si c'est le cas, ça n'aura jamais été aussi vrai de l'histoire des éditions collector, tu vois. Et alors, évidemment, pour répondre au hashtag Backgate qui s'est répandu un petit peu sur Twitter et les réseaux sociaux, Bethesda a dit « Oui, on est désolé, on comprend, mais bon, en fait, il se trouve que la matière dans laquelle on avait prévu de faire ce sac, eh ben, elle est un peu en pénurie, c'est compliqué de la trouver. »
Bah, c'est sûr que la toile, hein, putain, c'est comme le caviar, tu vois, c'est un truc rare, quoi.
Un produit de luxe, les amis.
La bourse à la toile, elle est en train d'exploser en ce moment. L'indice de la toile, là, on est vraiment à un niveau historiquement haut. Donc, pour se faire excuser, Bethesda a dit « Ok, bon, calmez-vous, on va vous donner 500 atomes. » Alors, les 500 atomes, ça correspond à combien ? 4,99€.
Non, mais surtout, 500 atomes, ok, 4,99€, mais ça permet d'acheter quoi dans le jeu ? En fait, c'est surtout ça la question, parce que le comble d'une ironie, si vous voulez, c'est que ces 500 atomes, ils ne permettent même pas d'acheter un costume avec un sac en toile, justement.
Bah avec 500 atomes, je pense que t'as un kebab sur la canette, hein.
Ah bah t'as même pas la formule salade tomate oignon, hein.
C'est ça. Non, mais parce qu'il faut bien savoir que dans ce Fallout 76, il y a un système aussi économique qui est totalement pété.
Surprenant, dis donc.
C'est-à-dire que moi, j'ai regardé des gens qui ont terminé le jeu et qui, à la fin du jeu, n'avaient pas assez d'atomes, justement, pour acheter un simple changement de skin ou quelque chose comme ça.
Alors que dans n'importe quel free-to-play à la con, je veux dire, tu peux gagner des skins gratos, quoi. Là, on parle d'un jeu à 60 balles, hein, je rappelle. Enfin, non, excusez-moi, c'est vrai qu'il a été soldé à 30 euros.
Une semaine après la sortie du jeu. Et ça, c'est aussi un point de contention hyper important, parce que vous doutez bien que vous êtes un early adopter d'un jeu en early access qui se balance full price et qui est censé être fini, entre grosses guillemets, et qu'une semaine après, tu te rends compte que ton jeu que t'as payé 60 balles, voire 70 balles, il est déjà à moins 50%, voire moins. Je pense que t'as les boules.
Le pire, c'est les mecs qui ont déboursé les 200 balles, quoi. Eux, ils doivent être pris pour vraiment pour des vaches à lait.
Enfin, a priori, c'est vraiment la clientèle, le cœur de cible de Bethesda qui a claqué son argent dans ça, tu vois. Donc, ça veut dire que même eux, tu vois, on leur a fait un petit toucher rectal, là, je pense qu'ils l'ont senti bien passer.
Au lieu de faire les crevards à donner 5 euros aux gens, et comme ça, c'est 5 euros in-game, hein, je te parle même pas de 5 euros, 5 dollars dans la vraie vie. 5 euros in-game, ça leur coûte pas d'argent. Ils auraient pu faire un geste vis-à-vis de ça, et je sais pas, moi, proposer un beau prix pas derrière pour vous dire on s'excuse de ne pas avoir répondu à vos attentes. En contrepartie, vous avez accès à la prochaine extension du jeu gratuitement, ou bien on vous offre ceci ou cela. Quelque chose qui aurait eu du sens pour les joueurs, ou même offrir un jeu de la gamme Bethesda.
Ou même, tu sais, un truc de ouf, on vous rembourse. Pourquoi je veux aborder ce sujet aussi? Parce que il y a un autre sujet de contention en ce moment entre les joueurs et Bethesda. C'est que au début, bon, au vu de la qualité assez problématique du jeu, il y a pas mal de joueurs qui ont réussi à se faire rembourser. Et puis, visiblement, au bout d'un moment, il y a une, des instructions qui sont venues d'en haut, parce que je rappelle que Fallout 76 est vendu uniquement sur le store de Bethesda. Et donc, du coup, c'est Bethesda qui décide, en tout cas sur PC, si oui ou non le jeu est remboursé ou pas.
Oui, c'est vrai.
Et oui, mais ils l'ont pas sorti sur Steam, hein, ils sont pas fous, parce que vu le review bombing qui se serait pris, voilà. Et donc, au bout d'un moment, il y a visiblement des instructions qui ont dû être données, parce que il y a de plus en plus de joueurs qui ont du mal à se faire rembourser. Malgré le fait que je rappelle que le jeu, enfin, il est sorti dans un état indigne, là, en fait. J'aimerais vraiment sincèrement poser une question à Bethesda, mais est-ce que vous réalisez que vous êtes un peu en train de, je sais pas, tuer la réputation de votre marque, là? Je pensais pas pouvoir le dire aussitôt, mais on est au-dessus du level de Blizzard, là, quand même, hein, en termes de conneries. Alors, je sais bien que pendant des années, c'est vrai qu'on vous a mal habitué, nous autres joueurs. Parce que, tu sais, Bethesda, chez les joueurs, c'est un peu comme tonton Gérard. Je sais, j'aime bien les Gérards. Au repas de Noël, tu sais, il arrive, il sort un peu des conneries, tout ça. Mais on lui pardonne, parce que c'est tonton Gérard, tu vois. Et c'est un peu pareil avec Bethesda. Tu sais, ils te sortent des jeux dégueulasses, mais quand même, c'est des jeux qui sont cool. Donc, on leur pardonne. Et ça fait des années, effectivement, qu'on les a mal habitués, tu vois. Et qu'à chaque fois, on leur pardonne. Et peut-être qu'à force de les pardonner, bah, ils se sont dit qu'ils pouvaient, très sincèrement, sortir un jeu aussi dégueulasse à 60 balles, interdire aux gens de se faire rembourser, et que ça allait passer crème, en fait. Ah, bah bizarrement, tiens, ça marche pas. C'est étrange, mais c'est vrai que, je le reconnais, nous autres joueurs, on a peut-être une part de responsabilité là-dedans, mais par contre, il y a un truc que je vous assure, Bethesda, c'est que j'espère que votre marketing sur vos prochains jeux, il va être en béton armé, et que vous allez investir un peu dans la QA. Parce que là, bizarrement, j'ai l'impression que tonton Gérard, on va lui foutre un coup de pied au cul, on va le mettre dehors, parce que ça, on va plus beaucoup le supporter encore longtemps, tu vois.
À moins qu'on le fasse piquer.
Est-ce que je rajoute la petite cerise sur le gâteau ou pas?
Alors, vas-y.
Alors, ça concerne uniquement les joueurs PC européens. Pour rentrer dans la customisation de votre base, votre clavier ne reconnaît pas, en fait, le clavier au format européen. Il n'est pas un AVERTY, il est sous forme QWERTY. Et ça, c'était la cerise. Mais on peut aussi rajouter le petit nappage qui va avec. Le petit nappage, c'est que pour le prochain jeu...
chocolat. Du chocolat en merde, tu vois, ça va être bien.
Leur prochain jeu utilisera leur moteur, qui est un moteur vieillissant depuis Morrowind. Déjà que Fallout 4, sur la génération actuelle, était dégueulasse à la sortie vis-à-vis des autres productions, je sais pas, ça, enfin personnellement moi j'ai toujours trouvé que ça faisait tache. Si on reste sur un moteur comme ça qui a du mal à supporter le poids des années, en plus de ça est complètement buggé à chaque fois, on est obligé d'attendre que les joueurs PC les joueurs console, alors vous, on vous emmerde encore plus, mais on est obligé d'attendre que les joueurs PC font des mods pour corriger certains défauts du jeu. Enfin voilà, au bout d'un moment, Bethesda, je pense que ça serait bien qu'ils essayent justement d'avoir quelque chose d'un produit qualitatif, parce que c'est pas comme si leur jeu se vendait pas. Skyrim, je crois qu'il a été vendu à plus de 10 millions d'exemplaires.
Bah surtout que Skyrim, il continue de le vendre. Hein.
Ouais, mais voilà.
Est-ce qu'il y a un seul support sur lequel n'est pas sorti Skyrim, quoi? Je vous pose la question. mais en plus, alors tu vois, à la limite, moi je veux bien que vous utilisiez toujours le même moteur, mais à ce moment-là, faudrait investir dedans, quoi, parce que honnêtement, des studios qui utilisent depuis des années le même moteur, il y en a. Mais à chaque fois, tu sais, ils mettent le pognon pour l'actualiser, en fait. Et c'est un peu ça le problème de Bethesda, c'est que quand tu vois la gueule de Fallout 76 et de Fallout 4, on a l'impression que c'est toujours le même moteur, mais que finalement, il n'y a jamais de travail en profondeur sur des trucs qui posent problème depuis des années sur ce putain de moteur. Donc voilà, enfin bref, à un moment donné, Bethesda, faudrait peut-être arrêter de nous prendre pour des jambons et se sortir un peu les doigts du cul. D'ailleurs, messieurs les éditeurs, est-ce que vous pourriez arrêter de nous prendre pour des cons, vous aussi? Parce que bon, pour ceux qui n'auraient pas suivi cette semaine, il y a eu de l'actualité du côté des lootbox. Il se trouve que la Federal Trade Commission aux États-Unis et le Parlement, je crois, ou le Sénat, je sais plus, d'Australie, ont décidé que, ben, il serait temps de s'intéresser un peu au cas des lootbox quand même. Alors, surtout la Federal Trade Commission aux États-Unis, c'est assez chaud parce que s'ils commencent à s'intéresser au sujet et qu'ils décident que ben les lootbox c'est du 18+, je peux vous dire qu'il y a pas mal d'éditeurs qui vont commencer à flipper leur race. Hein.
Ah, yeah.
On a eu une réaction des éditeurs. Hein. Bon, je vais vous lire hein, parce que ça manque pas de saveur. Hein. Voici ce que les éditeurs, l'ESA, l'association des éditeurs, a répondu. Les lootbox sont une manière pour les joueurs d'améliorer l'expérience que les jeux vidéo ont à offrir. Contrairement à certaines affirmations, elles n'ont rien à voir avec des jeux d'argent. Elles n'ont aucune valeur réelle. Les joueurs reçoivent toujours quelque chose qui améliore leur expérience et leur achat est purement optionnel. Elles peuvent améliorer l'expérience de ceux qui choisissent de les utiliser, mais n'ont aucun impact sur ceux qui choisissent de ne pas le faire.
Oui.
À un moment donné, je me demande si les gens qui pondent ce genre de communiqué sont connectés avec le monde réel. Alors, je vais passer tout le bullshit sur le fait qu'elle soit optionnelle, etc. Je veux dire, la cocaïne, c'est optionnel aussi, c'est pas pour ça que c'est pas un additif. Hein, enfin,
ouais, bref. Mais ça améliore ton expérience. Hein.
Oui, ça améliore l'expérience aussi. Enfin bref, voilà.
Pendant une courte période, hein, par contre. Hein, bref,
Exactement. Mais il y a quand même un point sur lequel je voulais revenir un peu plus sérieusement. C'est cette idée assez curieuse que les lootbox n'ont aucun impact sur les gens qui choisissent de ne pas les acheter. Je vous laisse intégrer cette notion quelques secondes.
J'ai intégré.
Est-ce que vous réalisez à quel point on se fout de votre gueule, là, en fait? Parce que, je sais pas, moi, là, instinctivement, comme ça, je te dirais que quand tu commences à designer un jeu autour d'un certain modèle économique, ce modèle économique va avoir obligatoirement un impact sur le gameplay. Exemple, Warframe, c'est un jeu avec énormément de farm. Pourquoi c'est un jeu avec énormément de farm? Parce que si t'as pas envie de t'emmerder à farmer ce machin pendant 4 heures, tu peux dépenser de l'argent pour aller plus vite. Donc forcément, je veux dire, intuitivement, même sans être un grand designer, je me dis, quand même, le modèle économique, c'est un impact sur le gameplay, tu vois. Du coup, quand il y a un communicant comme ça qui me dit que, mais non, les lootbox n'ont aucun impact sur moi, si je choisis de ne pas les acheter, je me dis, mais mec, tu me prends quand même sacrément pour un con, quoi. Surtout que, étant un ancien, je me rends bien compte, en jouant à certains de ces jeux, qu'il y a des trucs qui sont payants aujourd'hui, qui étaient gratos à une certaine époque. Genre, je sais pas, moi, les cheat codes, tu vois. Moi, je sais pas, à une époque, les cheat codes, c'était gratuit. Maintenant, dans Assassin's Creed, il faut les payer pour les débloquer. C'est un peu curieux quand même, vous voyez. Donc, à un moment donné, il va falloir arrêter avec l'hypocrisie. C'est-à-dire que, oui, les lootbox ont forcément un impact sur le gameplay comme n'importe quel modèle économique. Messieurs?
Alors, ce que t'as dit sur les cheat codes, c'est, je pense exactement à la même chose. C'est-à-dire qu'à un moment, les jeux, on avait soit des codes à faire, ou soit des bonus secrets à débloquer en jouant au jeu au fur et à mesure. Donc ça, c'est quelque chose aujourd'hui qu'on nous fait payer. Donc soit. J'aimerais bien revenir sur une chose, c'est que quand ils disent que les lootbox peuvent améliorer l'expérience de ceux qui choisissent de les utiliser, mais on n'a aucun impact sur ceux qui ne choisissent de pas les faire. Alors, pour un jeu multijoueur, quelqu'un qui a le choix de payer une lootbox et d'avoir une meilleure arme, est-ce qu'il ne sera pas plus avantagé que quelqu'un qui décide de ne pas utiliser les lootbox et d'avoir une l'arme de base?
Les pay to win, ça n'existe pas.
C'est ça, voilà. Mais c'est... Enfin, ce communiqué, c'est totalement et purement du bullshit. Soit c'est des mecs qui ne jouent pas aux jeux vidéo, qui sont totalement déconnectés de ce qui se passe à l'intérieur, et que c'est juste des mecs du marketing qui sont là pour vendre le plus, ou soit les mecs sont carrément conscients de ce qu'ils font, et que en gros, ils essayent de mettre la douille aux joueurs. Et encore plus dans les jeux solo, quand je vois apparaître des coffres qu'il faut ouvrir, soit en ayant une companion app à télécharger, soit il faut faire je sais pas quoi, machin chouette pour débloquer tel objet légendaire, c'est clairement non. Déjà, c'est anti-immersif de sortir du jeu et de passer par ton smartphone. Mais en plus de ça, si on te demande par la suite de sortir ta carte bleue, mais enfin voilà, comment gâcher une expérience de jeu, quoi.
Ouais, bah surtout quand tu sors de Red Dead après, c'est difficile de retourner dans ce genre de délire, hein, Morven.
À noter d'ailleurs qu'il y a une application compagne hein, de Red Dead, qui est pas faite pour ça, mais qui est censée du coup t'aider à faire de... à regarder la map. Mais bref, moi je vais rappeler un petit peu ma marotte, qui est que c'est pas parce que tu peux ne pas les acheter, ces lootbox-là, que c'est pas grave. Dans le sens où, vous avez peut-être le discernement de savoir que vous n'avez pas à les acheter et que vous n'avez pas besoin de les acheter et que c'est une pratique qui est mauvaise. Mais combien de gens n'ont pas ce discernement-là? Bon, il y a encore un certain nombre de gens qui mettent à l'étude le fait que c'est du jeu d'argent ou pas. On en a déjà parlé, mais il y a quand même une méthodologie de l'addiction derrière tout ça. C'est-à-dire que très souvent, c'est des jeux qui font en sorte que tu reviennes tous les jours, que tu fasses un certain nombre d'actions tous les jours pour avoir l'intégralité de tous les bonus que tu peux avoir dans la journée. Et on le sait, il y a des gens qui développent des addictions à ce genre de choses. Ça peut être des adultes. Mais moi, je pense aussi à tous ces gamins qu'on ne surveille pas forcément parce que, bah, je sais pas, on leur a donné une tablette ou un smartphone, et puis, bah, ils jouent à des jeux vidéo sur ces plateformes-là. Quoi de plus normal pour un parent, en fait, de, qui joue à un jeu simple, entre guillemets, sur cette plateforme-là. Mais derrière, en fait, le parent, il a peut-être pas forcément la conscience qu'il y a ces choses-là qui existent. Alors effectivement, le gamin, il a peut-être pas forcément accès à une carte bleue. Et quand bien même, il développe dans son cerveau, en fait, cette mécanique du « bon bah, j'ai pas d'argent, du coup je peux pas m'acheter ça ». Et quand il aura de l'argent, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bah, il va y aller. Et je sais bien que bon, il y a certains qui vont nous dire « bon, vous nous serinez un peu trop avec ces trucs-là », mais je pense que c'est vraiment crucial, quoi. Toujours penser que c'est pas parce que toi tu refuses d'utiliser ce genre de méthode-là, qu'il y en a d'autres qui sont pas en train de tomber dans le piège, en fait. Et c'est exactement ce que font ces jeux-là, même s'ils sont free-to-play. Parce qu'au final, et on est même en train de voir qu'il y a des jeux qui sont full price, qui mettent ce genre de truc-là. Donc, je pense qu'il faut, voilà, que l'éveil des consciences continue, et notamment que les hautes instances gouvernementales prennent ce problème à bras-le-corps. Parce que je sais pas s'il y a encore déjà des lobbies sur ce genre de sujet-là, mais si on laisse le temps à des lobbies du jeu vidéo de se créer sur ce genre de problème-là, jamais on va faire quoi que ce soit là-dessus.
ADH.
Pas plus tard que la semaine dernière, je parlais avec un revendeur de jeux vidéo qui a eu la malencontreuse chance d'avoir un client mécontent dans sa boutique. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un grand-père et son petit-fils qui sont venus au magasin. Car son petit-fils jouait à un jeu, pas très populaire hein, en ce moment, c'est un jeu qui s'appelle Fortnite. Le petit-fils a demandé à son grand-père de lui donner la carte bleue pour qu'il s'achète une arme ou bien quelque chose de cosmétique. Qu'est-ce qui s'est passé? Papy, il est pas à l'heure d'internet. Il reçoit ses relevés bancaires tous les mois. Et quand il s'est rendu compte qu'il manquait 400 euros sur son compte, qui était parti pour le compte de Fortnite, qu'est-ce que grand-père a fait? Il s'est rendu en boutique de jeux vidéo et a demandé le remboursement carrément au vendeur. Déjà, le revendeur n'avait rien à voir là-dedans.
Bah, il peut pas grand-chose, le pauvre.
C'est ça. Et en plus de ça, ça crée des systèmes d'addiction. J'en avais déjà parlé pour un cas similaire avec FIFA Ultimate Team, où on achète des cartes un peu comme quand on était gosse, on achetait des cartes Panini pour débloquer des joueurs qu'on peut utiliser ensuite en jeu. Et bah, il y a eu ce cas-là. Et sur Internet, il y a beaucoup de cas où des gens dépensent de l'argent. Il y a eu le cas aussi sur GTA V. Et ça, moi, je pense que, notamment pour les plus jeunes, pour eux, l'argent, ça n'a pas de valeur. Ils ne travaillent pas encore. Ils n'ont pas encore conscience de ça.
D'autant plus, excuse-moi de te couper, mais d'autant plus qu'en général, ces trucs-là, dans les jeux, il n'y a pas écrit euro ou dollar. C'est une monnaie virtuelle que tu achètes avec des vrais euros.
C'est des V-Bucks.
Voilà. Pour le gamin, en fait, il ne sait pas qu'il est en train d'utiliser du vrai argent.
C'est ça. Parce que tout est immatériel. Mais on parle que des enfants. Mais moi, j'ai eu le cas, dans mon expérience professionnelle, de personnes qui étaient adultes, même bien plus âgées que moi, qui dépensaient de l'argent dans ce genre de choses-là. Mais quand je dis dépenser de l'argent, c'est-à-dire que le mec, son compte bancaire était figé, et essayait toujours d'utiliser sa carte comme si c'était une pulsion qu'il avait en lui pour acheter des choses qu'il ne pouvait pas acheter. Et à chaque fois, après, on venait me voir, et il m'emmerdait pour que je lui débloque sa carte, mais quand tu dépenses plus de 1 500 € dans un seul jeu vidéo, c'est qu'il y a un problème. Voilà. Après, qu'on vienne pas me dire qu'il n'y a pas d'addiction, il n'y a pas besoin d'études par rapport à ça. Il n'y a qu'à voir les milliers d'articles qui pop sur Internet, de parler avec les gens, d'écouter ce qui se dit autour de vous.
Même les témoignages. Voilà. Je vous mettrai en lien de l'émission une vidéo que Jim Sterling a fait sur le sujet. Et il termine son intervention avec un témoignage. Alors, il cite pas la personne, mais il dit juste que c'est une personne qui lui a envoyé un mail où il explique très en détail comment il ne peut plus jouer à FIFA parce que en fait, c'était un addict au jeu d'argent et que du coup, il s'était un peu réfugié dans le jeu vidéo pour se sortir de ça, en fait, tu vois. Eh bien, le résultat des courses, c'est qu'il jouait énormément et qu'à un moment donné, il s'est arrêté. Pourquoi ? Parce que les mécaniques actuelles des lootbox lui redonnaient des pulsions de jeu, en fait.
Non, mais tout est dit. Enfin, voilà, il n'y a pas besoin de chercher plus. Mais surtout que, en fait, même en jouant à ces jeux-là, on voit clairement que les mécaniques sont faites pour pousser à l'achat. C'est-à-dire que, au bout d'un moment, voilà, enfin, les éditeurs, ils sont marrants, mais c'est sûr que ça leur apporte tellement d'argent qu'ils ont pas envie de s'en priver.
Ouais, mais non, mais de toute façon, c'est comme les fabricants de cigarettes, hein, à un moment donné, faut pas compter sur eux pour être honnête, mais il va falloir les forcer à être honnêtes. Bon. Eh bien, justement, Mordren, puisqu'on parle de modèle économique, on va attaquer notre jeu du moment, un jeu dont on ne va pas faire le test, paradoxalement, mais on veut quand même en parler. Pourquoi ? Parce que son modèle économique, ma foi, est très intéressant. Et ce jeu, c'est Magic Arena, tiré de Magic the Gathering.
Magic Arena, en fait, du coup, qui est toujours en phase de bêta. Hein. Donc, la bêta est ouverte, mais le jeu n'est pas sorti. Pourquoi on en parle ? Alors, vous allez me dire, oui, depuis la rentrée, tu nous parles beaucoup de jeux de cartes. Oui, j'aime bien ça, désolé.
Mais tu es notre Beast Marmatanou, Marin.
Mais à chaque fois, en fait, on en parle sous le prisme du modèle économique, parce que il y a des choses qui sont intéressantes à noter. On parlait notamment de la dernière fois du jeu de cartes Le Seigneur des Anneaux. Et là, en l'occurrence, Magic Arena prend une autre voie.
Une direction étonnante pour Wizard of the Coast. Pourquoi je dis étonnante? Parce que ils sont pas spécialement connus dans le monde du jeu de cartes à collectionner pour être des gens sympas sur les tarifs.
Ouais. C'est clair. Parce que bon, dites-vous bien que, voilà, si les jeux de cartes en ligne qu'on voit à l'heure actuelle sont comme ça, c'est en grande partie de la faute de Magic. Mais là où c'est intéressant, en fait, c'est que il y a eu plusieurs itérations de Magic sur des jeux numériques, et je trouve que Magic Arena est la version la plus aboutie et la plus intéressante, ne serait-ce qu'en termes de gameplay, mais aussi en termes de modèle économique. Parce que, bon, le jeu est free-to-play, et on pourrait même dire que ce n'est pas un free-to-start, c'est-à-dire que c'est vraiment un free-to-play, dans le sens où tu peux vraiment y jouer et y prendre du plaisir sans payer. Rien que ça, c'est quand même assez intéressant, parce que sur les jeux de cartes en général, ce qui se passe, c'est que on va te donner ce qu'il faut pour commencer. Puis au bout d'un moment, en fait, il va arriver vers toi des extensions. Et clairement, en fait, si tu veux être compétitif assez vite, il va falloir que tu payes pour avoir un deck compétitif. Là, en l'occurrence, si tu veux, Magic Arena, c'est un jeu qui a différentes strates, où tu vas avoir, en gros, le niveau basique, t'as évidemment un tuto, et à chaque jour, en fait, pendant 8 jours, tu vas débloquer un deck préconstruit que les développeurs du jeu ont inventé, donc ils te donnent l'intégralité des cartes.
J'ai envie de dire qu'ils te filent un peu le mode d'emploi aussi. Hein.
C'est ça. Ils te filent le mode d'emploi dans le sens où, en fait, bon, je vais pas vous faire le pitch, mais bon, il y a 5 couleurs dans Magic, et donc, évidemment, il y a des combinaisons de couleurs, et chaque couleur et combinaison, c'est un archétype de jeu. Et au bout d'un moment, en fait, tu vas te rendre compte, à force de jouer, que bah il y a plutôt un style de jeu que toi t'aimes bien et que tu vas te mettre à privilégier. C'est à partir de ce moment-là où déjà t'as une collection de cartes qui est relativement correcte que tu vas te dire, bon, qu'est-ce que je peux faire de compétitif ? Donc évidemment, t'as la strat basique qui est le match de ladder contre voilà des Kidam qui ont des cartes qui ressemblent à peu ou prou à ce que t'as. Et puis, au-dessus, en fait, il y a les différents formats qui ressemblent à ce qui a été développé dans Magic, le jeu de cartes normal, depuis des années. Donc le format draft, c'est vous avez 3 boosters qui vont être ouverts avec 15 cartes, et à partir de ces cartes-là, tu vas te faire un deck que tu vas ensuite amener contre les autres joueurs qui ont fait la même chose que toi. Mais ça, c'est un format qui est hyper intéressant parce que, un, pour y participer, c'est gratuit parce que tu ne peux y participer qu'avec la monnaie gratuite du jeu, qui est la gold, à savoir qu'il faut 5000 gold pour pouvoir faire un draft. En général, tu gagnes facilement 1000 gold par jour, donc facilement une fois par semaine, tu vas pouvoir faire un draft. L'intégralité des cartes que tu as choisies pour ton deck, elles entrent dans ta bibliothèque, dans ta collection. Donc ça, c'est plutôt cool, tu fais pas un investissement pour rien.
À condition de gagner, par contre, il me semble.
Non, non.
Ah, non.
Même si tu fais zéro win, tu empoches, quoi qu'il arrive, les cartes que tu as choisies pour ton deck de draft. Quoi qu'il arrive. Donc ça te fait 40 cartes, déjà, en plus. Et évidemment, plus tu fais de win avec ces cartes-là, plus tu vas avoir des bonus en plus. Donc ça va être des boosters, ça va être des gemmes. Et alors les gemmes, c'est la deuxième monnaie du jeu qui, elle, pour le coup, est accessible le plus facilement, en payant évidemment, mais qui est accessible du coup via le draft. Et ce qui est intéressant en fait, c'est que dans une optique de free-to-play pur, tu peux te faire une espèce de parcours de joueur dans ce système économique-là, où tu ne dépenses que du gold pour jouer du draft, et une fois que t'as suffisamment de gemmes, eh ben tu les utilises pour faire éventuellement un autre format de jeu, les formats compétitifs en général, tu y accèdes avec des gemmes, ou ces gemmes, tu peux les utiliser pour acheter des boosters que tu vas ensuite ouvrir. Mais ce qui est intéressant, en fait, c'est que la quasi-intégralité des formats, ceux qui sont les moins compétitifs, sont accessibles avec du gold. Donc, ce qui fait que, au final, t'es assez peu bridé dans ce que tu voudrais faire dans le jeu.
Surtout si t'es pas un joueur hyper compétitif non plus.
Ouais. Alors, je vais pas vous mentir, hein, si vous avez une toute petite collection, que votre deck il est pas top, et que vous vous lancez dans une partie compétitive, même si vous l'avez payé avec du gold, dites-vous bien que les mecs en face, ils vont vous rouler dessus. Mais c'est normal, puisque c'est des gens qui sont là, parce qu'ils sont un peu sur les niveaux du dessus. Mais moi, à mon petit niveau, je reste un petit peu dans le niveau de base, c'est-à-dire que je fais mes matchs en ladder non classé, je gagne mes gold, et puis chaque semaine, je fais 1, 2, 3 drafts, et puis je m'amuse. Le draft, c'est vraiment un des formats les phares de Magic, et qui est hyper intéressant, et évidemment, c'est un peu basé sur la chance. Hein.
Ouais, mais c'est aussi basé sur l'adaptation, c'est ça qui rend ce format super populaire et intéressant, c'est qu'il y a un côté très excitant de te dire, ok, j'ai ce deck-là, qu'est-ce que je fais avec, comment j'improvise, comment j'essaye de faire au mieux avec les armes qu'on me donne, quoi.
C'est ça. Et ça, en fait, pour moi, c'est un socle de jeu qui est suffisamment intéressant. C'est une boucle de gameplay, entre guillemets, qui est suffisamment intéressante pour n'être que ça comme jeu. Après, si vous arrivez, évidemment, à développer un petit peu plus votre jeu, à vous créer des decks un peu plus intéressants, voire plus compétitifs, là, évidemment, vous allez pouvoir monter au niveau du dessus. Mais rien que le niveau standard, il est déjà intéressant. Maintenant, évidemment, je vous dis pas que... tout est magnifique, hein, parce que évidemment, si vous voulez passer au niveau du dessus, il va falloir que vous commenciez à réfléchir un peu plus à votre deck. Alors comment on fait pour choper de nouvelles cartes ? Alors évidemment, il y a la luck pure, c'est-à-dire que tu ouvres des boosters. De base, tu vas avoir, quoi qu'il arrive, 3 boosters par semaine, minimum. Parce que si tu fais 15 wins dans la semaine, ils te donnent 3 boosters. Un toutes les 5 victoires. Après, évidemment, tu vas en avoir au moins un par draft, donc ça te fait 4. Donc évidemment, bon, un booster, c'est 8 cartes. Donc ça va pas non plus énormément développer ta bibliothèque, mais quand même. Après, évidemment, le socle du truc, ça va être de crafter les cartes qui t'intéressent toi à mettre dans ton jeu. À savoir que l'intégralité des cartes qui sont disponibles dans les éditions qui sont disponibles à l'heure actuelle dans Magic Arena sont craftables. Évidemment, vous le savez, comme dans tous les jeux de cartes, vous avez des cartes qui sont catégorisées en communes, non communes, rares et mythiques. Mais évidemment, elles sont plus difficiles à avoir, enfin voilà, etc. Comment on les craft? À chaque fois qu'on ouvre un booster, il y a une espèce de petit cercle de progression qui progresse vers l'obtention d'un joker commun, non commun, rare ou mythique. Évidemment, un joker commun égale une carte commune. Un joker non commun égale une carte non commune, etc. Là où c'est intéressant, c'est que, bon, en général, tu vas choper assez vite tes premiers jokers non communs communs. Une fois que t'as gagné un joker rare, tu gagnes ensuite un joker mythique. Et c'est là que ça va coincer un petit peu. C'est-à-dire que, en général, tu vas plus avoir besoin de joker rare que joker mythique, t'en as exactement le même nombre au final. Donc ça va peut-être un petit peu te coincer et te brider à un certain moment. Si vous voulez jouer uniquement compétitif sans payer, moi je vous conseille de vraiment développer votre style de jeu et de connaître exactement le deck qu'il vous faut, et à ce moment-là, utilisez vos jokers pour crafter les cartes qui vous manquent.
Ouais, de s'hyper spécialiser en quelque sorte pour vraiment... se concentrer sur l'essentiel, ouais. Et essayer de choper les cartes qu'on veut, quoi.
Et essayez pas de partir sur deux decks, trois decks, votre obtention de joker en free-to-play, ça sera jamais suffisant. Il va falloir vraiment beaucoup, beaucoup jouer pour ouvrir suffisamment de boosters pour pouvoir avoir suffisamment de joker pour crafter toutes les cartes que vous voulez. Évidemment, l'avantage de Magic, c'est que ton deck, même si c'est pas exactement le deck que tel joueur te conseille, ça veut pas dire qu'il sera mauvais. Ce qui est le cas, notamment sur des decks de jeu comme dans Hearthstone. En général, quand il y a pas la carte qui est hyper importante, ton deck, il s'effondre sur lui-même. Ce qui est pas le cas du tout dans Magic. Même en ayant un deck qui est objectivement petit et free-to-play, tu peux très bien te débrouiller parce que il est bien pensé, ton deck. Et il n'y a pas forcément beaucoup de rares ou beaucoup de mythiques dedans, mais il peut très bien se débrouiller aussi. Et c'est en ça, pour moi, que Magic Arena est extrêmement intéressant. C'est qu'au final, la porte d'entrée, en fait, elle est vraiment assez large, quoi.
Donc, pour résumer, hein, c'est pas la taille du deck qui compte. Ce qui compte, c'est de savoir s'en servir, n'est-ce pas?
Ouais, j'ai une question pour toi, Mordren.
Ouais, vas-y, Tash.
En prenant ton cas personnel sur Magic, est-ce que toi, déjà, tu as dépensé de l'argent dessus? Et si ce n'est pas le cas, t'es-tu senti freiné à un moment donné ou pas?
J'ai dépensé zéro argent sur le jeu. Je me suis jamais senti freiné parce que c'est ce que je te dis, moi je reste sur la boucle de gameplay standard qui me suffit amplement parce que déjà j'ai pas beaucoup beaucoup de temps pour jouer. Les week-ends je me fais mes drafts et puis c'est déjà bien. Et je passe pas non plus énormément de temps à construire mes decks, donc tu vois je suis là, je m'amuse, et puis bon, là j'ai quand même compris qu'il y avait un deck en particulier qui m'intéressait, et donc j'ai commencé à checker un petit peu les cartes qui pourraient être bien dedans, pour en enlever certaines qui sont pas top dans le deck préconstruit, et en ajouter certaines qui sont a priori meilleures. Mais tu vois, pour l'instant, moi j'ai quasiment pas utilisé de joker, enfin, j'ai pas du tout été freiné, en aucun cas, parce que l'avantage, c'est que pour moi, le format le plus intéressant et celui qui t'apporte le plus de cartes, c'est le draft, et c'est celui qui est le plus accessible au final. Tout le reste, en fait, c'est des trucs qui sont hyper compétitifs et qui, comparativement, vont te donner moins de récompenses. Ça va être extrêmement compétitif, mais pas forcément très rémunérateur. Donc au final, je ressens pas le besoin de jouer ces formats-là, tu vois.
Ce qui me plaît, tu sais, Marine, dans ce que j'entends, c'est que ça me rappelle fortement Warframe, dans le sens où
Warframe... Tu vas le passer partout, toi, Warframe.
Non, mais pourquoi je le cite souvent free-to-play? Parce que pour moi, c'est un modèle de free-to-play exemplaire. Enfin, dans le sens où qui respecte le joueur, tu vois. Parce que Warframe, c'est un jeu où certes, on va t'inciter, par exemple, tu peux payer pour débloquer certains trucs, mais par exemple, il y a des trucs pétés où tu ne peux pas payer pour les débloquer. Et il y a plein de trucs comme ça, où il y a des frames totalement craqués, tu vois, que tu ne peux débloquer qu'en farmant. Et tu ne peux pas payer pour les avoir, en fait. Parce qu'ils savent très bien que c'est des frames craqués et que bah il y a pas possibilité de payer. Alors après, si t'as la flemme, il y a certaines frames un peu classe que tu peux avoir en payant, par exemple, en achetant les frames auprès des autres joueurs, avec la monnaie du jeu pour le coup où t'as dépensé de l'argent, quoi. Mais par contre, un peu comme ce que dit Mandraine sur Magic, le jeu, en fait, ne te frustre tellement pas, si tu veux, que tu te sens pas obligé. Enfin, moi, c'est ça que j'apprécie, c'est que il y a pas ce côté, on essaie, tu sais, de brider ton expérience, mais vraiment te le faire sentir pour que tu dises au bout d'un moment, hé oh mec, hé oh, il est temps de payer là, hé oh.
C'est le jour de la paye.
Ce que j'essaye de dire aussi quand on parle de ces jeux-là, c'est que moi je suis pas fondamentalement contre le free-to-play, c'est juste que je pense que les free-to-play qui ont un modèle économique qui respecte les joueurs, c'est l'exception et pas la règle.
Oui.
Voilà.
Il y a le bon free-to-play et le mauvais free-to-play.
Après, moi j'aimerais bien terminer quand même, comme je l'avais fait d'ailleurs sur Le Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes, je rappelle quand même que c'est une bêta qui est ouverte, tout est susceptible de changer du jour au lendemain, donc... Ce que je vous dis à un instant T, c'est vrai pour mon sentiment à moi, hein, parce qu'évidemment, ça peut très bien ne pas être le sentiment de quelqu'un qui va tester ça plus tard, parce que il aimerait plutôt jouer différemment au jeu, et ça je le conçois tout à fait. Maintenant, il y a aussi un certain nombre de points d'interrogation que je vais avoir moi. On sait que Magic, il y a 4 extensions par an, donc ça veut dire une édition tous les 3 mois. Donc c'est à peu près le système qu'a calqué Hearthstone. Mais en fait, moi, la question que je me pose, c'est quand il y a la bascule, si tu veux, vers une nouvelle édition, est-ce que tu vas pouvoir encore t'amuser correctement, en fait, avec tes petites cartes de free-to-player, ou est-ce que tu vas être, entre guillemets, obligé de passer à la caisse ?
Sans parler du fait qu'on peut changer les modes de jeu aussi, hein, parce que...
Bien sûr.
Ce qui est vrai aujourd'hui en termes de mode de jeu peut être changé demain, hein. Donc c'est aussi le problème du jeu à service. Donc attention, ce qu'on dit là, restez vigilants, parce que peut-être que dans 6 mois, ça sera pas vrai, tu vois.
Et évidemment, on peut aussi très bien modifier le système de récompense journalière, qui fait que ben au lieu de gagner 5000 gold par semaine, voire 10000 gold par semaine, ben t'en gagnes 2000. Et là, au final, bah, il te faut 2 semaines et demie pour accéder au draft, tu vois. Voilà, il faut évidemment faire très attention. Et dernière chose, Magic, c'est un jeu qui est vraiment compliqué parce que le nombre d'éditions est tellement important qu'ils ont été obligés de mettre en place un système qui fait qu'il y a un roulement des éditions qui sont standards, c'est-à-dire que les éditions qui sont jouées par an, ça va pas être les mêmes l'an prochain. À fin 2019... Les 4 extensions qui sont sorties cette année, elles vont sortir du standard. Et ça va être la même chose sur Magic Arena. Ce qui fait que, si t'as énormément investi, que ce soit tes thunes ou ton temps, sur ces trucs-là, et que t'as pas du tout investi sur celle de l'année prochaine, et ben, fin 2019, t'auras plus rien dans ta collection qui sera jouable. Donc il faut faire très attention. Voilà, je vous dis pas de vous y jeter corps et âme. Moi, je trouve que c'est intéressant. Maintenant, est-ce que quand il y aura cette fameuse bascule-là, j'aurai suffisamment joué pour avoir une collection qui restera jouable au standard de 2020, en fait ? Et ça, c'est la question que je me pose, parce que évidemment, ça pose la question de la pérennité de ton temps de jeu, évidemment, sur ce jeu à service-là. Donc voilà, c'est des questions que je me pose, et c'est aussi des avertissements que je vous donne si vous vous posez des questions, quoi.
J'ai une question bête pour toi.
Ouais.
Lotus Noir, c'est toujours la carte la plus rare ou pas?
Alors Lotus Noir, c'est une carte qui existe plus du tout dans le format standard de Magic, mais oui, c'est une carte qui est effectivement extrêmement rare et très recherchée et qui se vend très cher, mais c'est pour l'aspect collection, mais pas pour l'aspect jeu.
Ouais, non, mais parce que quand j'y ai joué, moi, en format physique, il y a très longtemps,
ouais, bien sûr.
Quand j'étais au collège à Magic, cette fameuse carte, c'était un peu un fantasme pour tout le monde à l'époque, et du coup, c'est pour ça que je te demande encore si... Il y a encore ce fameux mythe de cette carte ou pas, ou c'est complètement passé?
Ça reste, je pense, une carte mythique. Après, je saurais pas dire si c'est la carte qui coûte la plus chère, si c'est la carte qui est la plus recherchée ou pas. Mais oui, effectivement, il y a toujours cette aura derrière cette carte, ouais.
Merci, Mordane.
Voilà, c'est aussi pour ça qu'on n'a pas fait test de Magic, parce que... Vu le nombre de personnes qui ont dû jouer à ce jeu durant leur enfance,
c'est clairement pas la peine. Ouais.
Voilà. Allez,
On va s'arrêter pour cette semaine, messieurs, dames. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao à tous.
Salut tout le monde.
Ciao, ciao.